Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontanille. Heures après, que reste-t-il du discours de politique générale de Manuel Valls? Deux choses essentiellement. De l'inattendu avec ce coup de semonce pour les territoires, régions et avant tout départements promis à une sévère cure de rétrécissement. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques jours. Et du plus attendu, à défaut d'être prévisible, à travers les annonces relatives au fameux pacte de responsabilité et à son petit frère, le pacte de solidarité. On en sait davantage désormais sur les mesures en faveur des ménages et des entreprises. Encore qu'il ne faille sans doute pas mettre les premiers et les secondes sur le même plan, car dans les arbitrages rendus par le Premier ministre pour inaugurer la deuxième partie du quinquennat, ce sont les entreprises qui se taillent la meilleure part. Baisse de l'impôt sur les sociétés, forte réduction, voire suppression des cotisations patronales sur les bas salaires. Si les patrons avaient un doute quant à la volonté du gouvernement de les ménager, les voilà rassurés. Mais ce qui réconforte les uns n'est pas toujours du goût des autres. C'est désormais à la Commission européenne qu'il va falloir vendre ces mesures sans dévier de l'objectif de réduction des déficits publics. Alors après le ras-le-bol fiscal, voici venu, c'est la question que nous posons, le Noël fiscal, c'est donc notre sujet du jour. Et deux invités ce soir pour en discuter. Philippe Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, maître de conférence à l'université de Picardie, c'est à Amiens. Vous êtes par ailleurs membre de l'AFEP, l'Association française d'économie politique. Pour discuter avec vous ce soir, Frédéric Montlouis-Félicité. Bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de l'Institut de l'entreprise, le think tank de l'entreprise, qui est donc financé par de grandes entreprises. Vous devez être un homme heureux ce soir, j'imagine. En tout cas, vos adhérents doivent l'être, puisqu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été proposées aux chefs d'entreprise hier. On va avoir bien sûr l'occasion d'y revenir. Je signale que sous votre direction est publiée la revue sociétale. Le numéro pour 2014 vient de sortir. C'est aux éditions Erol, enfin une coédition Institut de l'entreprise édition Erol. On peut voir en titre de cette revue épaisse, la fin du déni. Là aussi, c'est une question que vous posez. Ma première question, elle sera pour vous, Frédéric Montlouis-Félicité. Pour d'abord essayer peut-être de qualifier le discours de Manuel Valls hier, la tonalité notamment sur les questions fiscales. Est-ce que vous y avez vu un discours de rupture par rapport à ce qui a été fait auparavant, un discours dans la continuité, une inflexion? Comment est-ce que vous le qualifieriez? Voilà, je cherchais à prononcer correctement ce verbe.
Alors effectivement, la rupture, elle est d'abord dans la forme, hein, puisque vous avez évidemment noté que le discours a duré la moitié du temps de celui de Jean-Marc Ayrault il y a un peu moins de 2 ans. Donc on est très clairement dans le rythme, on est dans l'énergie et dans le volontarisme. Donc voilà, c'est déjà un premier point positif et qui n'est pas négligeable, évidemment.
Donc rupture dans la forme, mais est-ce que rupture sur le fond?
Alors sur le fond, non. Sur le fond, il s'agit de mettre en œuvre ce qui a été décidé par Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Donc il s'agit de mettre en œuvre, mais il s'agit surtout, comme on dit dans l'entreprise, d'exécuter maintenant, c'est-à-dire de faire advenir ce qui a été décidé. Et c'est là où les difficultés, évidemment, on peut les attendre.
Si je vous posais la question, hein, je vais vous la poser d'ailleurs à vous aussi, Philippe Léger, c'est parce que hier soir, sur son blog, la journaliste politique du Monde, Françoise Fressoz, écrivait « Valls est l'homme de la rupture fiscale ». Est-ce que vous voyez de la rupture fiscale dans ce qui a été dit hier?
Non, absolument pas. Je pense également que sur le fond, il n'y a pas de rupture. Avant de vous donner mon avis personnel, il me semble assez intéressant de regarder comment ce discours a été reçu, a été perçu par la presse économique et financière et par les décideurs économiques.
Plutôt bien.
Voilà, aujourd'hui, dans les échos, Dominique Seux explique que Valls n'a pas cherché à donner des gages à la gauche du Parti Socialiste. Le tournant fiscal est clair, le chef du gouvernement met plus de 15 milliards d'euros sur la table des entreprises. Donc en plus du CICE et du pacte de responsabilité. Finalement, quand on regarde les déclarations, les seuls qui sont insatisfaits, c'est la CGPME, hein, puisque le petit patronat s'estime lésé. Je reprends la déclaration du délégué général de la CGPME. Très clairement, c'est fromage et dessert pour les grandes entreprises. Hein. Et donc, la politique fiscale de Valls n'innove pas dans ce sens qu'elle conserve d'abord et avant tout ce grand déséquilibre entre fiscalité des ménages et des entreprises, hein, où c'est une accumulation de cadeaux fiscaux pour les entreprises, davantage d'impôts pour les ménages. Et ensuite, au sein des entreprises, clairement, les grandes entreprises sont privilégiées par rapport aux petites.
Alors, on va aller sur la question des équilibres ou des déséquilibres, effectivement, sur la fiscalité à laquelle sont soumis les ménages et les entreprises. Et pour rester sur la tonalité générale, je voudrais aussi avoir votre avis sur la lisibilité. C'est-à-dire, est-ce que au moins on peut dire que les annonces qui ont été faites hier ont permis de rendre un peu plus lisible ce que serait la politique fiscale du gouvernement, puisque ça, c'est aussi un des grands problèmes. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la remise à plat voulue par Jean-Marc Ayrault de la fiscalité, c'est de dire c'est tellement illisible aujourd'hui qu'on n'y comprend plus rien. Donc est-ce qu'on gagne en lisibilité, Frédéric Montlouis Félicité ?
Sur la question de la lisibilité, je vous renvoie à un article de Sociétal qui est écrit par Michel Talley, hein, qui justement pose la question, y a-t-il une politique fiscale en France ? Et la réponse, je ne vous la donne pas, vous aurez le plaisir de la lecture, simplement.
Donnez-nous-en un avant-goût quand même.
Eh bien, tout simplement, François Hollande, depuis 2012, les impôts ont augmenté d'à peu près 30 milliards d'euros en France. Ils avaient augmenté sous la mandature, sous le quinquennat précédent, d'à peu près la même somme. Donc, depuis 2010, on a 60 milliards d'euros en plus.
Oui, mais on peut être lisible en augmentant les impôts. Hein.
Alors, on peut être lisible en augmentant les impôts. Simplement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une obésité fiscale qui a tué la croissance. Et la politique qui vient d'être annoncée par Manuel Valls consiste justement à baisser les prélèvements, à baisser la fiscalité, en particulier sur les entreprises. Ça n'est pas un cadeau fiscal, c'est le retour du bon sens. C'est simplement la reconnaissance. Est-ce que Manuel Valls a assumé complètement, sans le dire en ces termes, mais c'est une politique de l'offre. C'est de dire que les entreprises créent la croissance crée l'emploi. C'est enfin une politique assumée.
Donc il y a de la cohérence pour vous dans ce qui a été annoncé hier. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une cohérence globale de la politique fiscale qui est menée aujourd'hui par la France ?
Je pense qu'on revient, effectivement dans une forme de cohérence et dans le fait que l'on assume assez clairement où l'on veut aller et comment on veut y aller.
Philippe Léger, davantage de lisibilité, de cohérence ?
Alors, concernant la lisibilité, il y a eu quelques précisions qui ont été apportées par Manuel Valls, qui consistent en fait simplement à confirmer des déclarations que Pierre Moscovici avait faites ici ou là, notamment à l'issue des assises de la fiscalité des entreprises. Ces assises qui avaient été mises en place à la suite de la présentation du projet de loi de finances 2014, lequel prévoyait initialement un élargissement de l'assiette fiscale de l'impôt sur les sociétés, élargissement dont le MEDEF ne voulait pas. Et finalement, ça a été retiré de la loi de finances avec comme idée qu'il fallait tout remettre à plat et donc convoquer ces assises. Ces assises, dans lesquelles donc le MEDEF était bien représenté, ont sans surprise conclu qu'il ne fallait pas modifier cette assiette de l'IS, et en revanche qu'il fallait supprimer un impôt, la C3S, et donc c'est ce qu'a confirmé Manuel Valls.
La C3S, hein, il faut rappeler ce que c'est. Je me tourne à nouveau vers vous, Frédéric Montlouis Félicité. La C3S, sans doute que ça parle beaucoup aux chefs d'entreprise. Pour le commun des mortels, c'est un peu moins compréhensible.
C'est tout simplement un impôt sur la production, hein, qui pèse sur les entreprises qui génèrent plus de 760 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
Donc voilà, donc ça, on va vers sa suppression.
Ça représente 5 à 6 milliards d'euros, hein, annuels.
Vous n'avez pas répondu d'ailleurs sur la cohérence, Philippe Léger.
Alors la cohérence...
On peut être contre un projet, mais le trouver malgré tout cohérent. Est-ce qu'il y a une cohérence sociale-libérale dans ce qui est proposé ?
Non, je ne pense pas que ce projet soit cohérent. On va être, je pense, amené à en rediscuter ce soir. Mais je pense que le gouvernement ne parviendra pas à atteindre ses objectifs. ni en termes d'engagement au niveau européen concernant la trajectoire des déficits, ni concernant la relance de l'investissement, car contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que l'investissement dépend avant tout de la demande, que les entreprises ne créent pas la croissance, qu'elles peuvent, lorsqu'il y a une demande, un carnet de commandes, effectivement investir.
Donc les allègements par exemple qui sont proposés, la révision de la fiscalité sur les entreprises, notamment l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui doit passer alors d'ici 2020 de 33% à 28% avec une dégressivité par étape, les allègements de charges, tout ça pour vous Philippe Léger, ça ne va pas contribuer à créer de la croissance, de l'activité, donc de la croissance?
Non, effectivement. D'une part, on peut constater que le coût du travail, enfin que les cotisations, c'est une faible part dans le coût du travail, qui lui-même n'est qu'une faible part dans le coût de production, dans lequel il y a aussi le coût du capital, et puis il y a aussi tous les éléments hors coût à prendre en compte. Donc de ce fait, l'impact en termes de compétitivité est relativement faible.
Donc il aurait fallu quoi ? Baisser encore plus les impôts sur les entreprises ?
On a un gouvernement qui finalement ne fait qu'amplifier la politique qui a été mise en œuvre dans les mois qui précédaient, mais plus généralement depuis le début des années 90. Quand on fait le bilan de ces baisses de cotisations sociales, on voit que alors les estimations sont très divergentes. Hein. On a quand même une politique qui coûte très cher aux finances publiques et on n'a pas d'estimation fiable du nombre d'emplois créés. Mais si on prend la moyenne des études sur le sujet, eh bien on s'aperçoit que le coût d'un emploi créé de cette façon-là est exorbitant, hein, autour de 75 000 euros. Donc je pense que c'est contre-productif, que c'est inefficace. Oui.
Mon petit doigt me dit que Frédéric Manlouis Félicité ne sera pas totalement d'accord avec ce que vous venez de dire.
Mais partiellement, parce que effectivement, quand on parle de compétitivité, il faut prendre en compte les deux principaux champs de la compétitivité, coût et hors coût. Dans les facteurs de coût, on a évidemment le coût du travail, ce qui n'est pas le seul facteur, hein, mais qui était jusqu'à présent un des poids qui pesait sur les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents. Et quand je parle de leurs concurrents, c'est dans des pays comparables, hein, donc dans la zone euro, les entreprises françaises avaient et ont toujours un coût du travail supérieur aux Allemands, aux Italiens, aux Britanniques, parce que les charges sociales pèsent beaucoup plus lourd sur le travail en France.
Donc, mais alors là, ça va peser beaucoup moins lourd, puisque pour un salarié payé au SMIC, il va y avoir une exonération totale des cotisations URSSAF. Et puis dans un deuxième temps, il y aura des allègements de charges pour les salaires compris entre 1,6 et 3 fois et demi le SMIC, ce qui représente énormément de salariés. Je crois que c'est environ 90% des salariés.
C'est 90% des salariés, effectivement.
Donc ça doit permettre aux entreprises d'embaucher.
Alors ça va, je l'espère, autant que nous tous, ça va générer normalement des emplois supplémentaires. Alors, ça n'est pas le seul facteur, puisqu'il faut que la demande suive et que les carnets de commandes des entreprises soient remplis. Simplement, ça va donner un bol d'air aux entreprises pour pouvoir soit embaucher, soit réinvestir, soit faire de la recherche-développement ou de la formation.
Mais en tout cas, si vous êtes un peu prudent sur cette question, est-ce que c'est parce que vous partagez totalement l'analyse de Philippe Léger ou c'est aussi parce que vous, qui représentez finalement ce soir le monde de l'entreprise, vous êtes prudent par rapport aux contreparties qui sont demandées ou qui vont être demandées dans le cadre de ce pacte de responsabilité?
Non, je crois que la question, elle n'est pas tellement là. La question, elle est plutôt dans le rythme. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. On a perdu, non pas deux ans, mais je pense plutôt trois. C'est-à-dire qu'un an avant l'élection présidentielle, on n'a plus vraiment pris de mesures sur les questions de compétitivité. Le débat s'est arrêté. Et depuis deux ans, on a mené une politique de zigzag avec des coups de chaud et des coups de froid. Et donc, en réalité, les décisions des entreprises, notamment d'embauche, se sont arrêtées, ce qui explique en grande partie la crise de confiance aujourd'hui des chefs d'entreprise. Donc, je crois que la question du timing est extrêmement importante.
Donc, il y a forcément un décalage, entre les annonces et la façon dont les entreprises vont intégrer ces annonces.
Bien sûr, sachant que la majeure partie des annonces qui ont été mises sur la table hier prendront effet à partir de 2015. Donc, c'est dans huit mois. 8 mois, le temps qu'elles aient un effet, on est encore dans un an, peut-être, potentiellement, dans la situation actuelle. Regardez ce qu'a fait Matteo Renzi en Italie. Il annonce des mesures qui sont extrêmement impressionnantes en termes de, en termes d'effet, et ça prend effet le mois suivant. Donc là, on a vraiment, je crois, une question de rythme. Malgré le volontarisme de Manuel Valls, le timing est important et malheureusement risque de poser un problème.
Philippe Léger.
Oui, bon, d'abord sur la comparaison France-Allemagne, concernant... secteur le plus exposé à la concurrence internationale, donc l'industrie manufacturière. Les écarts de coût du travail sont extrêmement réduits entre les deux pays sur ce secteur-là. Ça s'est légèrement accru dans la période très récente du fait de la forte pression à l'austérité salariale en Allemagne.
Donc ça, c'est un argument pour vous pour dire que il n'était pas nécessaire de baisser le coût du travail.
Exactement. Et par ailleurs, je pense qu'il y a derrière tous ces raisonnements en termes d'économie de l'offre, etc., l'idée fausse selon laquelle le manque d'investissement aujourd'hui s'explique avant tout par la faiblesse du taux de profit. Alors c'est vrai que le taux de marge aujourd'hui est faible, a diminué, je ne vais pas raconter le contraire, mais ça c'est dû à la crise. Et si on regarde la période qui précède immédiatement, dans les années 2000, l'investissement aussi était faible et pourtant le profit était stabilisé à un niveau élevé, historiquement élevé, hein, depuis la fin des années 80. Donc je pense que le diagnostic qui consiste à dire que le problème, c'est la profitabilité des entreprises et on permet à ces profits de remonter suffisamment rapidement, il y aura de l'investissement, de l'emploi, etc. Je pense que c'est un pari qui a déjà été fait par le passé. Qui a été perdu. Hein. Et donc, je pense qu'il faut consacrer les finances publiques à autre chose. On pourra en parler peut-être après.
Eh ben on va en parler très vite, d'ailleurs. Mais pour rester peut-être, en tout cas, revenir sur la philosophie. Puisque ce soir, on parle de politique fiscale, il me semble aussi intéressant d'essayer de comprendre quelle est la direction qui est celle prise par le gouvernement de Manuel Valls, notamment... À quoi sert finalement l'impôt ? À quoi sert la fiscalité aujourd'hui ? Est-ce qu'on a quand même une inflexion pour dire eh bien finalement la fiscalité, c'est d'abord un outil pour créer de la compétitivité et c'est peut-être un peu moins un outil pour créer de la redistribution ? Parce que là, on est sans doute aussi face à deux visions un peu, si ce n'est contradictoires, mais pas forcément complémentaires de ce qu'est l'impôt, Frédéric Monlouis, félicité.
Alors la théorie économique... libéral, je mets tous les guillemets du monde autour de ce mot, répond en disant que la fiscalité doit être la plus neutre possible pour, en tout cas, l'économie, pour les entreprises. Et que donc, elle n'a pas vocation à favoriser tel ou tel secteur ou à inciter tel type de production plutôt que tel autre. Bon, ça, c'est la théorie. La réalité aujourd'hui, et notamment dans un pays comme la France, montre que tout ça n'est évidemment pas respecté et que l'État, par la fiscalité, a des leviers qui ne sont pas du tout négligeables entre ses mains.
Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les leviers qui sont privilégiés, ce sont les leviers qui permettent de retrouver de la compétitivité, donc de la croissance, et moins de régler les inégalités.
Le système fiscal, alors on parle de deux choses différentes. On parle d'un côté de la fiscalité pour les entreprises et d'un autre côté de la fiscalité pour les ménages.
Ouais. Sauf qu'en période où il faut trancher, où il faut faire des arbitrages, l'un dépend de l'autre et vice-versa.
Alors évidemment, mais simplement, les deux n'ont pas vocation à être comparées, ne sont pas comparables en réalité, puisque quand la fiscalité qui pèse sur les entreprises, à un moment ou à un autre, pèsera sur les ménages. Que vous soyez client, actionnaire ou salarié d'une entreprise, l'entreprise répercute ses charges et sa fiscalité sur quelqu'un, et c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Donc il y a globalement une stricte équivalence entre la fiscalité qui pèse sur les entreprises et la fiscalité sur les ménages. Ensuite, la question, c'est une question qui est principalement politique. Comment est-ce qu'on affiche effectivement le poids fiscal qui pèse sur les uns ou sur les autres? Et là, c'est évidemment le rôle du gouvernement de prendre ses décisions en fonction de ses options politiques. Voilà. Ensuite, le système fiscal vers les ménages est fortement redistributif en France. Hein, si vous regardez tous les indicateurs d'inégalité de revenus en France, alors il varie certes d'une année sur l'autre, mais la France est un des pays les moins inégalitaires du monde, justement par son système redistributif.
Philippe Léger, est-ce que vous considérez que le système fiscal français aujourd'hui est suffisamment redistributif? Et est-ce que les annonces qui ont été faites hier, 5 milliards d'euros d'allègement sur 3 ans pour les ménages les plus modestes, le rendent encore plus redistributif qu'il ne l'était jusqu'alors?
Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer, au contraire, la fiscalité sur les entreprises et celle des ménages, qu'on ne peut pas faire de stricte équivalence entre les deux. Vous preniez l'exemple d'une augmentation de la fiscalité des entreprises qui serait répercutée sur celle des ménages. Le scénario actuel est inverse. Hein. La question aujourd'hui, c'est est-ce que la baisse de la fiscalité qui est sur les entreprises qui est proposée, enfin qui va être mise en œuvre par le gouvernement, va se répercuter, va avoir des conséquences positives sur l'ensemble de la population? C'est la question politique du jour. Certains nous expliquant que ça va se traduire en investissement, production, emploi, et que bon, finalement tout le monde sera gagnant.
Ça peut se traduire comment autrement?
Alors, ça peut se traduire tout simplement par une augmentation des marges des entreprises et une redistribution d'une partie de ce surcroît de marge sous forme de dividendes. Lorsque je suis né dans une société française où à peu près 10,5% des profits, hein, de l'excédent brut d'exploitation, étaient versés sous forme de dividendes. Aujourd'hui, on en est à 30%. Hein, donc il y a une inflation des dividendes et le grand risque aujourd'hui, c'est que le gouvernement fait ce cadeau fiscal. Je sais que le terme est récusé, y compris par M. Gattaz, mais c'est quand même une réduction des impôts et qu'il ne contrôle pas du tout l'usage que les entreprises vont en faire. Et la conclusion me semble assez prévisible, à savoir une augmentation des dividendes, à contribuer un peu plus à ce phénomène auquel on assiste depuis une trentaine d'années d'inflation des dividendes.
Bon, ensuite, y a aussi un petit cadeau fiscal pour les ménages.
Oui, alors je vais y venir. Alors quand même, il faut regarder à ce sujet, avoir un peu des ordres de grandeur. Hein. 30 milliards, ce n'est pas 30 millions. Hein. Peut-être que ça ne parle pas à tous les auditeurs, mais il faut voir.
Enfin, ce n'est pas 30 millions non plus pour les ménages, hein.
Non, 5 milliards. Oui, tout
sur
à fait.
3 ans.
Mais il faut voir l'ampleur ahurissante des sommes dont on est en train de parler. Quand je parle de 30 milliards, c'est uniquement le CICE plus le pacte de responsabilité, donc 30 milliards pour les entreprises, auxquels s'ajoute donc ce qu'a précisé M. Valls hier, à savoir à peu près 15 milliards d'euros, alors effectivement étalés sur une durée un petit peu plus longue, c'est vrai. Si je m'en tiens juste aux 30 milliards, quand on compare à la fiscalité des ménages, c'est à peu près 40% de la recette de l'impôt sur le revenu des ménages. Hein, c'est ça qu'on est en train d'offrir aux entreprises, l'équivalent de 40%. Ou si je compare à des dépenses publiques cette fois-ci, puisque comme vous l'avez dit, il y a des arbitrages budgétaires, c'est à peu près le budget du ministère dont je dépends en tant qu'enseignant dans le supérieur, hein, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche.
Donc vous dites c'est énorme pour les entreprises et c'est quoi alors? C'est dérisoire pour les ménages?
C'est dérisoire pour les ménages d'abord, hein, dont force est de constater les chiffres, c'est beaucoup plus faible. Et puis surtout, quel va être l'effet de cette baisse de cotisation salariale? Donc je rappelle, c'est entre 1 et 1,3 SMIC, hein, donc sur les bas salaires. Il faut distinguer deux aspects, à court terme, à long terme. Hein. À long terme, ça n'aura pas d'effet positif. Hein. Toutes les études internationales sur le sujet le montrent. Par contre, à court terme, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle immédiate, quelques euros de plus sur la fiche de paye de salariés qui donc peuvent s'en réjouir. Simplement, la question centrale à laquelle Manuel Valls n'a pas répondu, c'est quel financement? Si ça consiste à supprimer la prime pour l'emploi, la PPE, c'est juste un tour de passe-passe. Hein. On enlève aux ménages pour redonner un peu aux ménages et dans ce cas, on ne leur a rien accordé.
Alors, il y arrive justement à la question du financement, Frédéric Monlouis, félicité.
Alors peut-être juste avant, je voulais revenir sur ce que vient de dire Philippe Léger, notamment sur la question des dividendes et des marges. Il n'est pas tout de même anormal que des entreprises cherchent à faire des marges et à faire en sorte que ces marges soit importante ou au minimum au niveau de leur concurrence. Et c'est bien le jeu de l'économie de marché que de faire des marges. Et le théorème d'Helmut Schmidt, hein, qui est bien connu, c'est les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ce théorème, pour simple qu'il soit, est malgré tout vérifié et vérifiable. Donc, il est sain que les entreprises fassent des marges. Il n'est pas anormal non plus que les entreprises françaises aient augmenté ces dernières années les dividendes qu'elles versent, tout simplement parce qu'elles se financent beaucoup moins par les prêts et le recours à l'emprunt bancaire, et beaucoup plus par l'émission d'obligations et le renforcement de leurs fonds. Et donc, les actionnaires, l'actionnariat, est plus important, réjouissons-nous de cet état de fait, et donc les dividendes suivent. Voilà, donc la rémunération des dividendes, c'est autant de rémunération qu'il va en moins en banque. Voilà, c'est juste une parenthèse.
Bon, alors, en tout cas, toutes ces mesures fiscales, comment est-ce qu'on les finance aujourd'hui? Parce que il n'y a pas eu vraiment de précision sur la façon dont seront menées les économies qui sont prévues, 50 milliards d'euros. D'ailleurs, est-ce que ça suffira, 50 milliards d'euros?
Ça paraît un peu juste, malgré tout, si on fait... Il y a plusieurs façons différentes de faire les comptes, mais enfin, ça paraît juste. Et effectivement, quoi qu'il en soit, il y a tout de même un grand doute sur la façon dont ces 50 milliards seront financés. L'hypothèse qui est celle sur laquelle Manuel Valls nous a laissé hier et aujourd'hui, c'est qu'ils seront financés par un report de l'objectif de 3% de déficit.
Alors hier, justement, à propos de ce report, hein, puisque, voilà, on le rappelle, 3% de déficit, normalement, c'est le calendrier qui a été renégocié avec la Commission européenne, c'est pour la fin 2015, sachant qu'aujourd'hui, le déficit du produit intérieur brut, il est à 4,3% au lieu des 4,1% qui étaient prévus. Hier, donc, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls dit « Je suis pour le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité. Ce nécessaire équilibre, nous allons à nouveau l'expliquer à nos partenaires. » Alors, que voulait-il dire précisément? Eh bien, c'est justement la question que lui a posée ce matin notre confrère de RMC, Jean-Jacques Bourdin.
Déficit public 3% en 2015. Vous maintenez ce chiffre?
Ça, c'est l'objectif. Moi, je ne suis pas là pour annoncer des chiffres que nous ne pourrions pas atteindre. Mais en tout cas, on s'est fixé des chiffres, des objectifs, des engagements. Il faut faire ces efforts, mais il ne faut pas les faire n'importe comment. Et donc là aussi, nous allons préciser ce qu'on appelle notre trajectoire budgétaire, notre trajectoire financière dans les prochains jours. Et il y aura un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale avant la fin du mois.
Est-ce que vous allez demander un nouveau délai à Bruxelles?
Il y a des discussions avec Michel Sapin et le commissaire Oren qui est en charge ces questions à Bruxelles. Là aussi, c'est tout le débat que nous allons connaître au niveau européen. Comment nous pouvons retrouver de la croissance pour l'emploi au niveau européen?
Bon, alors je vais faire appel à vos talents de traduction à l'un et à l'autre, hein, Frédéric Monlouis-Félicité et Philippe Léger. Est-ce que le Premier ministre est en train de dire qu'il va demander un nouveau délai? Est-ce que vous considérez d'ailleurs que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire demander un nouveau délai pour atteindre les fameux 3%, Philippe Léger?
Alors, je pense que la question est plus grave que ça, pas simplement d'un nouveau délai. La déclaration de Valls n'est pas très claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour quelle raison? Parce que la politique économique du gouvernement actuel est prise dans un étau, mais dans un étau qu'il a lui-même fabriqué. Et je pense que c'est le point le plus important dans ce débat, c'est d'avoir conscience du fait que François Hollande a pris deux engagements qu'il n'aurait pas dû prendre. Le premier, donc au niveau européen, concernant la trajectoire des déficits publics de la France. Je rappelle qu'initialement, donc, il devait être ramené à 3% en 2013, finalement obtenu un délai de 2 ans supplémentaires donc pour 2015, qui ne sera pas tenu au vu des cadeaux fiscaux qui ont été accordés.
Donc vous, ce que vous dites, c'est pas tellement le délai qu'il faudrait négocier, mais c'est le principe même des 3% qu'il faudrait revoir?
Alors, il y a deux principes aujourd'hui en Europe, puisque dans la foulée, François Hollande a aussi signé le TSCG, le nouveau traité européen qu'il avait promis.
Traité budgétaire européen, voilà.
Voilà, qu'il avait promis de renégocier et dont il n'a pas changé une virgule.
La fameuse règle d'or.
Voilà, donc cette règle stipule qu'il faut retourner à l'équilibre structurel, hein, en fait 0,5% de déficit structurel d'ici 2017. Hein. Donc se conjuguent toutes ces contraintes. Pour l'instant, le gouvernement semble remettre en cause la trajectoire sans remettre en cause le but, c'est-à-dire cet équilibre structurel. Le problème, c'est que c'est complètement absurde sur un simple plan économique. La définition même de ce déficit structurel ne fait pas consensus. C'est une notion théorique, hein, qui elle n'est pas purement comptable. Et puis, la recherche de cet équilibre à tout prix a des effets contre-productifs, comme l'ont reconnu un certain nombre d'institutions, y compris des institutions assez libérales, comme le Fonds monétaire international.
Voilà, Frédéric Monlouis, félicité. Est-ce que la France doit tenir ses engagements dans le calendrier qui lui a été donné? Est-ce qu'elle doit renégocier le calendrier? Ou bien est-ce qu'il faut vraiment réfléchir aux contraintes qu'elle s'est elle-même fixées, même si elle y était un peu contrainte aussi, peut-être?
Alors, mais c'est exactement le problème, c'est que c'est la... Ça serait la quatrième fois en 10 ans que la France revient sur sa parole. Donc ça pose tout de même un problème assez grave de crédibilité au niveau international et de crédibilité par rapport à la zone euro et à l'Union européenne.
La France souffre d'un manque de crédibilité aujourd'hui par rapport à ça ?
Je crois qu'effectivement la question se pose de façon assez claire. Nos amis allemands, mais aussi italiens ou britanniques, ne comprennent pas que l'on revienne sans cesse sur nos engagements. Donc ça, c'est quand même le premier point qui me semble essentiel. Le deuxième point, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur un déficit à 3% et pourquoi est-ce qu'on demande un report? On demande un report parce que, et c'est ce que François Hollande a fait en 2013, il a dit « donnez-moi 2 ans supplémentaires ». Au bout de 2 ans, je serai sur mon objectif et pendant ces 2 ans, je vais faire des réformes structurelles. Je m'engage à mettre en œuvre des réformes lourdes qui vont changer la façon dont la France dépense l'argent public. Et donc, je vais faire des économies sur un certain nombre de choses.
Bah 50 milliards, c'est des économies, hein.
Oui, mais enfin, pour l'instant, on est en 2014 et on n'en voit toujours pas le plan détaillé. Donc, on espère qu'à la fin du mois, évidemment, Manuel Valls va présenter à la Commission européenne ou Michel Sapin vont présenter à la Commission européenne un plan détaillé d'économie. Pour l'instant, on a perdu encore un an, malheureusement. Donc, le temps de faire ces réformes, on sait très bien qu'elles ont un effet sur 3 à 5 ans. Et donc, on a encore une fois perdu 2 ans à attendre.
Donc vous dites qu'il faut garder le cap des 3% pour 2015 ?
Ça me paraît simple, à la fois simplement pour l'état, la santé des comptes publics en France, et puis par rapport à la crédibilité internationale de la France, notamment par rapport à ses voisins européens et puis aux financeurs.
Et pourquoi ne pas remettre en cause, comme le suggère Philippe Léger, le principe notamment de la règle d'or qui n'a jamais été véritablement débattue, il faut bien dire, avant d'être adoptée par les Européens?
C'est un ratio économique. Alors on peut discuter à l'infini de la validité de ce ratio. Simplement, il repose sur la distinction entre un déficit structurel et un déficit conjoncturel. Donc conjoncturel qui tient compte de la situation économique. Voilà, c'est un ratio qui a été accepté par l'ensemble des pays de la zone euro, dont la France. Pourquoi est-ce qu'on serait le seul pays à remettre en cause ce ratio sous prétexte que nous n'avons pas été capables de mettre en œuvre des réformes qui ne dépendent que de nous? Encore une fois, ça ne dépend que de la décision d'un gouvernement à un moment donné. Donc je crois que la parole publique et les résultats des élections municipales le montrent, la parole publique est démonétisée et ce n'est pas une façon de la rehausser, malheureusement.
La parole donnée, ça n'a pas de valeur à vos yeux, Philippe Léger ?
Alors, 2 choses. D'abord, la parole donnée, il y a quand même des différences entre ce qu'avait annoncé François Hollande pendant sa campagne et ce qui a été mis en œuvre, hein, qui est beaucoup plus grave que ce à quoi on pouvait légitimement s'attendre. Ensuite, aujourd'hui, ce sont des énormes allègements de cotisations sociales concentrés sur les très grandes entreprises qui rendent difficile ce cheminement budgétaire.
Alors, donc vous dites quoi, quitte à ce qu'il ne tienne pas ses engagements auprès des électeurs, il peut aussi ne pas les tenir auprès de ses partenaires européens?
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il cherche à tout prix effectivement à remettre la France dans le droit chemin de l'Europe libérale, mais c'est un chemin qui nous mène à la catastrophe. La zone euro, en 2012-2013, est la seule zone au monde qui a connu une croissance négative. Il y a eu une reprise partout, en Europe, on prolonge la crise. C'est ça la politique actuelle. Si je prends le taux de croissance de la France, 2012, 0%, 2013, 0,3%, l'année prochaine, peut-être 1%. Pendant ce temps-là, on n'en a pas du tout parlé ce soir. Pendant ce temps-là, on a un chômage de masse qui se développe avec une prévision d'augmentation encore du chômage selon le FMI. Pas de réduction en vue avant l'année suivante. Avec un chômage de longue durée, personne au chômage depuis plus de 3 ans, supérieur à 600 000. Plus de 1 an, plus de 2 millions. Et ce sont les chiffres officiels, malgré les radiations, etc., etc. Et puis, il y a l'autre aspect qui est que, certes, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur un plan strictement comptable, si le gouvernement veut tenir tous ses engagements, les 50 milliards ne sont pas suffisants. En revanche, je pense que dès lors qu'on examine le contenu des coupes budgétaires nécessaires pour y arriver, on va se rendre compte que ces coupes violentes sont néfastes. Qu'est-ce que c'est que 50 milliards ? Il y a eu des pistes qui ont été évoquées dans la presse économique. Est-ce que c'est la remise en cause de création de postes dans l'éducation nationale, qui a beaucoup souffert de la RGPP sous Sarkozy, etc. Est-ce que c'est une poursuite du gel du point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis mi-2010, alors même qu'on sait qu'il y a eu un recul du pouvoir d'achat en 2012, moins 1,5%, en 2013, moins 0,3%. Et donc tout ça pèse aussi non seulement socialement mais économiquement sur la consommation, sur la demande. Est-ce que c'est la baisse de la dotation des opérateurs publics qui ont déjà aussi beaucoup souffert, ou est-ce que c'est durcir les critères de l'ASS qui distribue gracieusement aux chômeurs en fin de droit un petit peu plus de 400 euros par mois ? Est-ce que c'est ça dont on est en train de parler ?
Alors, pour être brutal, je dirais oui, c'est tout ça, mais encore plus loin. C'est-à-dire que
alors vous avez au moins le mérite de la franchise, c'est-à-dire que non, Manuel Valls ne l'a pas dit, ça, hier.
Eh bien, il y a une zone d'ombre dans son discours. Vous avez noté, comme moi, qu'on a 11 milliards qui manquent sur les 50 milliards, où Manuel Valls a dit ce seront des ajustements des systèmes de prestations sociales, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement ? Ça veut dire que la politique de la RGPP ou de la MAP, c'est-à-dire coups de rabot.
RGPP, révision générale des politiques publiques.
Et la MAP, modernisation de l'action publique. Bon, tout ça, c'est la même chose. On revoit l'ensemble des politiques publiques et puis on détermine où couper dans un certain nombre de budgets. Bon, on arrive à la limite de l'exercice puisque tout a été fait. Et la vraie source d'économie aujourd'hui, il faut le dire clairement, et c'est la façon dont ni la droite ni la gauche n'ont réussi à aborder le problème depuis 20 ans, c'est l'État-providence. Comment est-ce qu'on va réduire le poids de l'État-providence dans la dépense publique ? C'est la moitié de la dépense publique, 600 milliards d'euros qui partent sur la sécurité sociale, sur la santé. C'est évidemment extrêmement important pour la vie quotidienne des Français. Personne n'en disconvient. Simplement, à un moment, il faut se poser la question du poids de ces dépenses dans la totalité de la dépense publique. Tant qu'on n'aborde pas ces questions structurelles, de fond, sur le modèle social, tant qu'on n'attaque pas cette question-là, on ne changera rien et les 50 milliards, on aura beaucoup de mal à les trouver. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins, Grande-Bretagne, Suède, Canada, dans lesquels, malheureusement pour les économistes atterrés, on continue à bien vivre, à bien se soigner.
Philippe Léger.
Alors, deux choses. Comme je l'ai dit, au moins, vous avez le mérite de la franchise par rapport à Valls. Bon, je suis évidemment en désaccord sur deux points. On pourrait souligner, bien sûr, les aspects sociaux. En tant que citoyen, je suis en désaccord avec ces coupes budgétaires. Mais même sur un strict plan économique, il faut bien voir que le système social français contribue à une forte réduction des inégalités entre ce qu'on appelle la répartition primaire et puis la répartition après les transferts et les prestations. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Et ça, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire économique. On constate que les inégalités sont reparties à la hausse récemment. Elles ont légèrement diminué pendant le cœur de la crise, ça c'est assez classique. Mais les grandes crises précédentes, par exemple, je prends la crise de 1929, elles sont précédées d'augmentation des inégalités et suivies de longues périodes de résorption des inégalités. On ne sortira pas de la crise sans réduire les inégalités.
Donc il ne faut pas toucher à l'État-providence ?
Non, surtout pas. C'est la dernière chose à faire. C'est au contraire ce qui nous retient d'avoir une crise beaucoup plus grave.
Bah, je vous remercie en tout cas tous les deux. Je ne peux pas vous laisser répondre, Frédéric Monlouis, Félicité, puisque nous sommes au terme de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle, Sociétale, l'édition 2014 sous votre direction et celle de Jean-Marc Daniel. France, la fin du déni. C'est le titre de cette revue aux éditions Erol et de l'Institut de l'Entreprise. Merci beaucoup, Philippe Léger, membre donc des économistes atterrés. Vos commentaires, évidemment, c'est comme chaque jour sur notre site, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Vous pourrez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. Demain, Netflix aura-t-il la peau de Julie Lescaut ? Ce sera la question que nous poserons.